Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue. Si vous nous rejoignez, vous êtes au bon endroit pour découvrir celles et ceux qui ont des idées pour faire face à la crise. Vous allez voir que des acteurs de la société prennent des initiatives. La France bouge, c'est simple, on trouve des solutions. Elles sont françaises, ensemble avec Emmanuel Duteil, le chef du service économie d'Europe 1. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Elisabeth Assayag, bonjour à toutes et tous. Émission spéciale aujourd'hui en soutien à l'emploi des jeunes avec notre grand témoin du jour jusqu'à 14h, Alexandre Viros, patron d'Adecco en France.
À la une en effet, comment vais-je faire en arrivant sur le marché de l'emploi? C'est une question qui revient chez les jeunes. La plateforme Un Jeune, une solution a été inspirée par la start-up Wisby et son fondateur est avec nous dans la France bouge.
Vous cherchez un travail là en ce moment? Veolia a 1000 postes pour vous disponibles tout de suite partout en France. Vous avez bien entendu, la numéro 2 du groupe nous dira où et dans quel domaine.
Chaque jour, les trophées Europe 1 la France bouge, un projet défendu par celle ou celui qui en a eu l'idée. Aujourd'hui, nous avons retenu une plateforme imaginée pendant le premier confinement par un jeune homme de 18 ans. Ça s'appelle Élèves Solidaires. Elle aide les jeunes à ne pas décrocher en ce moment.
Et justement, dans cette émission spéciale dédiée aux jeunes, nous serons avec le président de l'université Paris-Dauphine qui nous dira les actions mises en place pour aider ses étudiants.
Bienvenue dans La France bouge, nous sommes ensemble jusqu'à 14h.
La France bouge sur Europe 1.
Émission spéciale jeunes dans La France bouge, on lance véritablement une opération aujourd'hui. Chaque jour maintenant, les patrons viendront avec leurs offres d'emploi qu'ils ont à disposition pour les jeunes, mais pas seulement. On s'engage pour l'emploi et pour l'emploi des jeunes.
Bonjour Alexandre Viros.
Bonjour.
Vous êtes le président du groupe Adecco en France, vous êtes agrégé de philosophie. Sophie, vous êtes passé par la FNAC, puis à la SNCF, et ça fait 6 mois que vous êtes le président d'Adecco. Adecco, c'est le leader de l'emploi intérimaire en France. Vous êtes donc une vigie parfaite de ce marché de l'emploi. C'est dur d'avoir 20 ans en 2020, a dit Emmanuel Macron. Encore plus quand on arrive là sur le marché de l'emploi.
Effectivement, on est à un poste ou aux avant-postes qui nous permettent de voir où on est l'emploi. Et comme vous le rappelez, c'est très difficile de manière générale pour l'emploi et c'est sans doute particulièrement difficile pour les jeunes. En matière d'emploi, l'année 2020, ça a été une année terrible. C'est un peu comme si on avait perdu 4 ans de progrès sur ce front-là. On revient au taux de chômage qui était celui de l'année 2016. Et pour les jeunes, c'est très difficile. 20% des jeunes dans notre pays sont au chômage et c'est chez les jeunes que le chômage a le plus progressé. Donc oui, c'est très difficile et l'année 2021, ce ne sera pas l'année de la guérison, de la rémission complète, mais c'est une année où il faut qu'on se prenne en main et c'est ce qu'on fait avec un certain nombre de chefs d'entreprise pour remettre l'économie en mouvement et aider les jeunes et l'ensemble de la société à retrouver du travail.
700 à 750 000 jeunes sont arrivés sur le marché du travail là, au mois de septembre. Comment ça se passe pour leur employabilité?
Écoutez, forcément, dans ces périodes très compliquées, il y a de la contraction. Et puis, on peut retrouver aussi, à certains moments, un peu de conservatisme où les chefs d'entreprise, parfois, vont être plus conservateurs et vont vouloir employer des gens qui ont déjà la formation. Nous, ce que l'on dit et ce que l'on voit, et je crois qu'on peut saluer un certain nombre de dispositifs qui permettent de stimuler l'emploi, c'est qu'il faut un peu ouvrir son esprit et recruter plus de jeunes. Recruter plus de jeunes, ça veut dire accepter de les former, les prendre en apprentissage, faire preuve aussi d'initiative. Juste sur le front de l'emploi, je voulais quand même porter à votre attention quelque chose qui m'a frappé, c'est que le premier confinement, les recruteurs n'arrivaient pas à se projeter plus d'une semaine. C'était l'état de la sidération.
On est décidéré, voilà, c'est ça.
Incapable de décider. Le deuxième confinement, c'est étonnant, mais ils arrivaient déjà à se projeter sur un mois. Et depuis quelques semaines, je vois des demandes de recruteurs, de chefs d'entreprise qui nous disent « mais aidez-nous à nous projeter sur 3 à 6 mois ». Ça, c'est une raison d'espérer parce que ça veut dire qu'il y a une forme de solidité, une forme de résilience qui permet aux chefs d'entreprise de se dire « ok, on va vivre dans cet environnement-là et on va continuer d'être à la
manœuvre ». Parce qu'il y a un point très important. On révélait il y a quelques jours de cela sur Europe 1 une enquête de la Banque publique d'investissement qui disait « oui, il y a 15% de l'activité totalement à l'arrêt, mais il y a 85% dans lequel ça ne va pas si mal ». Et les patrons, quand on les interrogeait personnellement, disaient « bah oui, je vais peut-être maintenir mes recrutements ». Mais au global, ils étaient moins confiants. C'est ça qui est étonnant.
Oui, c'est la spécificité de cette crise et je pense que c'est la différencie de celle de l'année 2008-2009. C'est qu'elle est très contrastée selon les secteurs. Évidemment, il y a des secteurs qui sont des secteurs en berne. L'hôtellerie-restauration, l'événementiel, c'est des secteurs qui étaient recruteurs de jeunes d'ailleurs, où il y avait une surreprésentation et qui sont en grande difficulté. Et puis à côté de ça, il y a le numérique, le digital, qui d'une certaine manière a tenu la route pendant cette crise et qui a des besoins de recrutement très importants et parfois si importants qu'on n'arrive même pas à trouver les candidats qui sont adaptés. Il y a ce paradoxe en France qui est aggravé par la crise, qui est qu'on parle de beaucoup de chômage et pour autant, vous savez, on a un outil qui s'appelle Adecco Analytics qui permet de regarder 100% des offres d'emploi.
Il y a des postes
à
pourvoir.
Il y a 200 000 à 400 000, plutôt 400 000 emplois qui sont aujourd'hui pas pourvus. Nous, dans le groupe, on a annoncé qu'on allait embaucher 15 000 personnes en CDI apprenants pour pouvoir ces emplois qui sont, dans notre jargon, appelés emplois en tension. C'est des emplois qui ne trouvent pas preneurs.
Alors justement, Alexandre Biros, vous avez lancé en octobre ce fameux CDI apprenant pour objectif avec le recrutement de 15 000 personnes d'ici la fin 2021. Comment ça marche au moment où nous parlons ? Est-ce que ça fonctionne ?
Oui, c'est très simple en fait. Donc vous rappeliez leader du travail temporaire, mais on va embaucher 15 000 personnes en CDI, CDI apprenant, chez nous.
Alors je pense que déjà, un tout petit point, c'est quoi un CDI apprenant ?
Un CDI apprenant, d'abord, c'est un CDI. Et c'est un CDI qui se coule dans un, je ne vais pas être technique, qui se coule dans un véhicule juridique qui était à disposition, qui existe depuis 2014. Mais c'est un CDI où on vous recrute. Vous n'avez pas forcément la formation qui va bien pour être, par exemple, technicien en fibre optique ou maçon. Ce n'est pas grave. On vous prend, on vous forme et on vous forme dès le premier jour. Attention, parce que ça, c'est très différent de ce qui se passe d'habitude. Souvent, le CDI en France, c'est le Graal. Et souvent, on vous embauche en CDI. C'est évidemment, ça a beaucoup de valeur, mais souvent on vous embauche en CDI et on vous forme à quelque chose que vous savez déjà faire, on vous fait monter en compétences, c'est très bien, mais on ne vous forme pas évidemment à un nouveau métier. Le CDI apprenant, pour prendre un exemple dans le bassin aéronautique, on prend des gens qui étaient près de Toulouse, ils travaillaient dans l'aéronautique, secteur en grande difficulté, ils perdent leur emploi, nous les embauchons en CDI apprenant, nous les formons au métier de technicien fibre optique, là où il va y avoir de la demande, et ensuite nos clients qui ont des besoins de techniciens en fibre optique nous appellent, nous demandent une mission et on fait ce qu'on appelle une délégation, et donc là on remet ces gens très rapidement sur l'emploi sans passer par la case chômage.
Là, tous nos auditeurs qui sont dans leur voiture à la maison et qui se disent, moi j'ai envie de bosser et il y a cette solution, on fait comment? On va sur le site adecco.fr et il y a toutes les offres d'emploi disponibles?
On va sur le site adecco.fr, on va en agence, on appelle notre call center, tout le monde est mobilisé sur ce front-là, on prend contact avec ceux qu'on appelle nos responsables de recrutement et on y va. Vous savez, on l'avait annoncé il y a quelques semaines, on a déjà embauché 3000 personnes en CDI apprenant, un tiers d'entre eux ont moins de 26 ans.
Et donc il reste 12 000 postes, si je sais encore à peu près calculer.
Partout en France.
Partout en France, absolument.
Alexandre Biros, président du groupe Adecco en France, vous restez avec nous.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
C'est le lancement aujourd'hui d'une grosse opération dans la France bouge pour soutenir l'employabilité des jeunes. Chaque jour maintenant, des patrons vont venir vous dire combien ils cherchent. Alors parfois, c'est peut-être que 4-5 jobs, et vous allez voir comme ça, au fur et à mesure des jours, eh bien, des centaines d'emplois vont être proposés pour les jeunes sur Europe 1. Et on lance cette opération avec notre témoin du jour, Alexandre Biros, qui est le patron du groupe Adecco en France.
Et vous connaissez peut-être la plateforme Un jeune, une solution. Elle aide les jeunes à trouver du travail en cette période de crise. Elle accompagne le plan de relance du gouvernement. Et elle émane de Wisby, une start-up grenobloise. Bonjour Benjamin Ducousseau.
Bonjour.
Vous êtes le cofondateur de Wisby. 5,8 millions de jeunes utilisent vos services. Vous avez fondé Wisby il y a 10 ans. Et grâce à une levée de fonds de 12,5 millions d'euros il y a 2 ans, vous vous êtes diversifié en proposant des tas de services avec pour point commun faciliter la vie des jeunes. Comment ça marche ?
Ouais, ben c'est bien ça. C'est voilà, c'est même tout à fait ça. Donc voilà, nous on aide les jeunes maintenant. On connaît les jeunes et on connaît le digital. On aide maintenant les jeunes depuis une dizaine d'années maintenant. Tous les jeunes, voilà, sans distinction, tous les types de qualifications qu'on peut retrouver. Et on leur propose plein de services pour pouvoir vraiment faciliter un moment de vie qui est l'entrée dans la vie active. Donc ça veut dire des services pour faciliter la recherche d'emploi, c'est quand même le cœur, mais aussi des services pour faciliter le financement de la vie étudiante, notamment en simplifiant l'accès à toutes les aides étudiantes auxquelles les jeunes ont le droit.
Et puis ils les connaissent
des services
pas forcément,
pour la mobilité.
Ces aides. Ils les connaissent
exactement,
pas forcément.
Mais d'ailleurs c'est un vrai sujet d'ailleurs d'actualité aujourd'hui dans la mobilisation des jeunes contre la précarité étudiante. Mais voilà, il y a 6 milliards d'aides qui sont distribuées aujourd'hui chaque année. Il y a 30% des jeunes qui n'y font pas appel parce qu'ils sont perdus dans la jungle ou parce que la complexité administrative est un peu difficile pour eux. Donc voilà, l'enjeu, c'est de simplifier ça. Et nous, on a un de nos services qui simplifie le parcours. Donc on distribue ces services sous deux marques, soit des marques Wisby ou soit des marques de tiers. Et c'est notamment le cas de la plateforme que vous parlez unjeunesolution.gouv.fr, puisque c'est Wizbee qui est le créateur et l'opérateur pour aider les jeunes à réussir leur vie.
Et c'est ça qui est intéressant pour trouver de l'emploi, hein, puisque vous permettez aux jeunes de dénicher un travail à côté de chez eux.
Exactement. Donc la plateforme unjeunesolution.gouv.fr, puisque c'est d'elle dont on parle, elle a été créée dans le cadre de France Relance par le ministère du Travail, Elisabeth Borne et puis Thibault Guy. L'objectif était simple, c'était de dire, à côté du plan jeune qui avait été créé cet été, de proposer une plateforme digitale pour que plus ou moins chaque jeune puisse retrouver toutes les solutions qui sont disponibles à proximité de chez lui. Donc ça veut dire du job. Et aujourd'hui, il y a plus de 65 000 offres d'emploi qui sont présentes sur la plateforme. Mais ça veut dire aussi des formations, notamment toutes les formations vers les métiers d'avenir qui sont de grande importance aujourd'hui, des services civiques. Voilà, l'objectif, c'est vraiment que pour les jeunes, ils puissent retrouver toutes les solutions disponibles et pouvoir y candidater sur la plateforme.
Alors la plateforme Un Jeune, Une Solution a été lancée au mois de juillet. Quel est le bilan, le petit premier bilan que vous pouvez faire aujourd'hui? Il y a eu des candidatures, il y a eu des offres d'emploi recensées?
Oui, alors là, la plateforme a été plus exactement lancée, le plan jeune a été lancé en juillet.
En juillet,
la
mais plateforme, vous, le 19 novembre, été... hein, c'est ça, 19
exactement,
novembre.
Exactement, c'est ouais. Tout à fait ça. Donc elle a été lancée le 19 novembre. Aujourd'hui, deux mois après le départ, on est parti vraiment sur les chapeaux de roue, puisque c'est à peu près 600 000 jeunes qui sont déjà passés par la plateforme. C'est plus de 100 000 jeunes qui ont été redirigés vers un emploi. C'est 60 000 jeunes qui ont été dirigés vers une formation. Et c'est 30 000 jeunes qui ont été redirigés vers un service civique. Donc voilà, beaucoup de choses restent à construire. On veut améliorer l'expérience, proposer encore plus de solutions, plus de partenaires dans l'écosystème. Mais je dirais qu'aujourd'hui, grâce à la plateforme et surtout grâce à la formidable mobilisation des employeurs qui ont rejoint la dynamique, eh ben, il y a des résultats concrets et c'est une première marche vers l'accompagnement et l'avenir des jeunes.
Benjamin Ducousseau, le cofondateur de Wizbee, vous restez avec nous. On va se tourner vers Alexandre Viros, le patron du groupe Adecco en France, qui est notre grand témoin. Vous nous disiez 300 000 offres d'emploi non pourvues en ce moment. Là, on l'entend, des milliers d'offres d'emploi également non pourvues. Comment ça se fait que ces jeunes, et plus généralement les gens qui recherchent du travail aujourd'hui, ne prennent pas ces offres d'emploi? C'est une inadéquation entre la formation et les offres proposées?
D'abord, je voudrais saluer quand même ce qu'on vient d'entendre, parce que je pense que c'est un des meilleurs usages et exemples d'usage positif de ce qu'on peut faire de la technologie, qui simplifie l'approche locale, géographique et l'accès aux aides. C'est très important que la technologie puisse être utilisée, pas que pour le consumérisme, mais aussi pour aider les gens. Pour répondre à votre question, mon analyse, c'est la suivante, c'est que, et peut-être en particulier dans ce pays, c'est que on est un peu prisonnier de sa formation d'origine. C'est-à-dire que si vous avez la formation qui va bien, ça fonctionne comme une franchise et donc c'est très bien pour vous et faut pas le critiquer, mais c'est comme ça. Mais si vous n'avez pas la bonne formation, la bonne certification, vous êtes un peu prisonnier et donc ça devient parfois impossible de passer d'une rive de l'emploi à l'autre rive. C'est pour ça que les dispositifs de formation, on en parlait à l'instant, sont fondamentaux pour justement casser ce cycle qui est évidemment particulièrement tragique.
Le gouvernement,
vu la période que nous vivons aujourd'hui,
a prolongé les aides qui avaient été proposées pour les jeunes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut le dire, ça coûte quasiment zéro quand on veut prendre un apprenti. Il y a des milliers d'euros qui sont sur la table pour la formation des jeunes du côté des entreprises. Est-ce que vous avez l'impression que vos clients, parce que vous êtes au contact des plus grandes entreprises françaises, s'en saisissent?
Il y a beaucoup d'aides et donc ça, faut le saluer. Je pense que nos clients, ce qu'il faut, c'est déjà leur simplifier la vie. La plateforme, on vient d'en parler, c'est le métier aussi de toutes les personnes qui travaillent dans le groupe Adecco d'expliquer à nos clients ces dispositifs et comment accéder aux aides. Et nous, on active évidemment beaucoup la formation. On n'a jamais baissé nos investissements de formation. C'est plus de 130 millions d'euros qu'on a mis l'année dernière. On va continuer de progresser dans cette dimension aujourd'hui. Donc ça, c'est très important d'activer la formation, de ne pas le voir comme un coût, de le voir comme un investissement.
Benjamin Ducousseau, cofondateur de Wizbee, que vous disent les jeunes? Parce que là, on vient de vous entendre, il y a de l'emploi, il y a des offres. On parle beaucoup de générations sacrifiées, mais eux, se voit-il comme cela?
Ouh là là, alors là, justement pas assez.
Ah bah voilà, il faut le dire alors.
Ah oui, on vient de faire. Moi, je trouve que il y a un fait qui est très marquant en fait dans cette période. Ce que je voudrais relever, c'est deux choses. C'est d'abord l'état d'esprit des jeunes. En fait, on voit des jeunes qui aujourd'hui sont combatifs. Ils savent qu'il y a une période qui est exceptionnelle qui est en train de se produire. On le voit, ils sont parfois plus d'un tiers à pouvoir accepter même des boulots qui sont parfois à des rémunérations qui sont pas celles auxquelles ils pouvaient prétendre, qui sont parfois un peu à des qualifications qui sont un peu différentes aux celles auxquelles ils pouvaient aspirer. Mais pour autant, en fait, ils gardent une confiance forte dans l'avenir, puisque quand on les interroge, il y en a plus de 2/3 qui pensent que la situation finira par retrouver à la normale et qui pourront trouver un travail qui correspond à leur qualification. Et si on leur demande ce qu'ils pensent, quel est leur rapport à cette génération sacrifiée, je crois que c'est très clair dans les réponses. C'est plus de 80% des jeunes qui disent qu'ils ne veulent pas entendre parler de génération sacrifiée, parce que je crois que vous imaginez le fardeau que c'est quand on arrive dans l'entrée dans l'actif,
déjà
stigmatisé.
Cette appellation est particulière. Voilà. Un peu d'optimisme, hein. Ils pourront trouver un travail et gardent confiance en l'avenir. C'est ce que l'on retient avec vous, Benjamin Ducousseau, cofondateur de Wizbee.
Et Alexandre Virros, le patron du groupe Adéco en France. On vous garde, vous êtes notre grand témoin jusqu'à 14h.
Europe 1,
il est 13h27. À suivre, on soutient et on trouve des solutions pour les jeunes aujourd'hui dans cette émission spéciale La France Bouge. L'entreprise qui arrive à mi-poste à pourvoir.
Oui, et vous allez peut-être être étonné, ce sont de vrais postes, ce sont des CDI notamment, et cette entreprise s'appelle Veolia.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
On vous le dit souvent, mais le pire, c'est que c'est vrai. On est très heureux de vous accueillir avec Elisabeth chaque jour en direct dans La France Bouge sur Europe 1 jusqu'à 14h. Émission spéciale aujourd'hui. On soutient les jeunes pour trouver justement de l'emploi. Et on l'entend depuis le début de cette émission. Il y a des solutions. Et chaque jour maintenant, comme ça, on va essayer de vous proposer. Je vous le disais tout à l'heure, peut-être que ce sera que 3 ou 4 offres d'emploi parfois. Mais on sera là pour essayer de vous faire de belles propositions pour offrir à tout le monde le plus beau des avenirs possibles, notamment avec notre grand témoin du jour, Alexandre Virros, le patron du groupe Adéco en France.
Et tendez bien l'oreille, parce qu'ici à La France Bouge, on trouve des solutions. Bonjour Estelle Brachlianoff.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes la directrice générale adjointe de Veolia, en charge des opérations. Veolia, c'est 180 000 salariés, 55 000 en France. Et parmi vos objectifs, hein, vous annonciez en novembre vouloir recruter 1000 personnes, dont 900 en CDI. Où en êtes-vous aujourd'hui dans ces recrutements?
C'est simple, aujourd'hui, si vous allez voir sur notre site internet ou si vous appelez chez nous, il y a 1000 postes en CDI offerts, plus les alternants.
Mais alors venez, qui doit venir? Quel profil?
Alors quel profil? C'est simple, partout sur le territoire et tout type de formation. Ça veut dire que si vous avez un BTS, un CAP, une licence pro ou autre, venez
ou
chez
même
nous,
rien.
Vous trouvez...
Ou même rien, pas
voilà,
de formation.
Ou même rien. On a aussi des circuits d'alternance à tous les niveaux. Donc, on peut aussi vous former à nos emplois. Et c'est partout sur le territoire.
Dont on peut dire quasiment... c'est à Couëron, à côté de Nantes, c'est à Amiens dans la Somme. Il y a également des postes dans le Val-de-Marne, vraiment partout sur le territoire.
Exactement. On est une entreprise vraiment ancrée dans chacun des territoires sur des emplois non délocalisables. C'est vraiment là que se passe la vie chez nous.
Alors, on a des emplois partout en France, mais on fait quoi chez Veolia? Vous recrutez quoi de façon concrète?
Alors, de façon concrète, on recrute beaucoup de choses très différentes, mais si je vous donne juste quelques exemples. Alors, on recrute des électromécaniciens. Les électromécaniciens, c'est un peu les magiciens chez nous, ceux qui évitent qu'il y ait des grains de sable dans nos usines et que finalement, tout se passe bien, toujours, toute la journée.
Et c'est grâce à eux qu'il y a de l'eau potable
c'est
dans nos robinets,
par exemple.
C'est grâce
à eux qu'il y a, par exemple, de l'eau potable et que toutes nos usines d'eau potable ou de traitement de usée fonctionnent sans souci toute la journée, parce qu'on ne peut pas se permettre qu'elles s'arrêtent même une minute ou encore moins une heure.
Donc, besoin d'électromécaniciens.
Des électromécaniciens. On a aussi des spécialistes du recyclage que l'on forme pour qu'ils deviennent spécialistes du recyclage et qu'ils aillent notamment voir nos clients privés, les grands magasins comme les petits industriels, pour leur apprendre comment faire le tri et faire en sorte qu'à la fin, on puisse recycler le plus de choses possible.
Ça signifie qu'il y a de nouveaux métiers qui sont en train d'émerger quand on vous entend parler?
Alors, c'est une très bonne question. Alors, dans les électromécaniciens, ça fait des années qu'on en recrute et on continue à recruter.
Mais avec le recyclage,
par contre, le recyclage, ou même, je pourrais vous parler de ce qu'on recrute dans le digital, c'est des métiers qu'il y a de plus en plus chez Veolia. On crée de l'emploi chez Veolia et on en crée de plus en plus. Je vais vous donner juste un exemple. Pour recycler un objet, il faut 8 fois plus d'emplois que pour l'enfouir dans une décharge. Donc on comprend bien que plus on fait du recyclage, plus on fait du digital, plus on va faire des économies d'énergie pour nos clients, et plus petit à petit, on va créer des emplois.
Et comme vous n'arrivez pas justement à recruter, parce que c'est ça qui est assez impressionnant quand même, ces offres d'emploi, vous n'arrivez pas à recruter, vous engagez à former et à diplômer les profils intéressés.
Alors on arrive à recruter, on arrive à attirer, mais on a en permanence effectivement des besoins et des besoins nouveaux. Je pense qu'une des clés, c'est en fait de faire toucher du doigt ce qui est la réalité de notre métier. Et c'est l'émission que vous faites aujourd'hui qui y aide, hein. On fait en plus un métier qui est très utile. Et on sait que les jeunes sont particulièrement sensibles à ça, au fait de voir évidemment un métier, un CDI et le salaire qui va avec, mais aussi de servir à quelque chose.
Et c'est génial chez Veolia. Aujourd'hui, c'est ce qu'ils recherchent, les jeunes. Il faut que le métier ait du sens.
Et le métier chez Veolia, c'est, j'avais envie de dire, en façon raccourcie, c'est sauver la planète. On contribue à faire en sorte qu'il y ait moins de fuites d'eau dans les réseaux, qu'il y ait plus de choses qui soient recyclées, qu'il y ait des économies d'énergie, qu'on sauve du carbone. Et c'est grâce à tous les métiers du groupe, depuis l'électromécanicien, le gars spécialiste du digital qui va être dans un de nos centres de pilotage upgrade, qui nous permettent de faire des économies d'énergie. C'est tous ces profils-là qui permettent de faire de la transition écologique.
Et point très important, puisqu'on est très centré sur les jeunes aujourd'hui, vous avez maintenu, et je crois même un petit peu accentué, vos recrutements d'alternants, puisque là, on sait aussi que ça a été très, très, très compliqué pour les jeunes alternants.
On n'a pas un seul instant, pas une seule seconde, arrêté de recruter de jeunes et de recruter des alternants chez Veolia. Même au pire de la crise, quand on se replace au moment du premier confinement en mars et avril dernier, on a continué. Ça fait partie à la fois
aussi
de nos besoins, comme j'ai envie de dire, de notre devoir d'une entreprise qui est utile, évidemment, je le disais, à la planète, mais aussi au territoire et au pays dans lequel on est, et utile à la France. Je crois pouvoir le dire comme ça.
Vous êtes la numéro 2 hein, de Veolia, numéro 1 mondial, on l'a compris, du traitement de déchets. Vous voulez racheter votre concurrent français qui s'appelle Suez, qui est lui-même le numéro 2 mondial du secteur. On n'a jamais vu une bataille comme ça en France. On n'a jamais vu des mots doux qui circulent comme ça dans la presse entre deux si grosses entreprises françaises. Vous allez réussir à les racheter d'après vous ou pas?
Ça ira au bout, je n'ai aucun doute. Notamment parce qu'il n'y a qu'un seul projet, c'est le projet de Veolia. Un projet superbe. Si on est là pour une émission sur l'emploi, donc laissez-moi vous parler un peu de l'emploi dans le cadre de ce projet. On a pris des engagements sur le fait qu'on maintenait 100% des emplois en France dans le cadre du rapprochement Suez-Veolia. Et par ailleurs, vous l'avez compris, on a l'ambition même de créer de l'emploi en France. Quant aux éventuelles alternatives qui existeraient, si j'en crois le canard enchaîné de ce matin, ça ressemble à du démantèlement avec des fonds étrangers. Je crois pouvoir dire qu'à la fois pour les salariés de Suez, pour la France et même pour ce que je venais de dire en termes de préservation de l'environnement, on doit pouvoir espérer mieux. Et c'est notre projet, donc, créer le champion mondial de la transformation écologique, mais en France. Un champion qui crée des emplois.
Alexandre Viros, président du groupe Adecco en France. On vient de l'entendre avec Estelle Brachlianoff, la directrice générale adjointe de Veolia. Veolia fait appel à des alternants. Elle s'engage à former des jeunes. Est-ce que cela signifie qu'aujourd'hui, le diplôme, ce n'est pas forcément ce qui fait le recrutement?
D'abord, je voudrais saluer en fait le fait qu'il y ait plusieurs entreprises dont Veolia fait partie, le groupe Adecco également, qui prennent leurs responsabilités et qui ne cèdent pas à la tentation du rabougrissement et du conservatisme. Ça, c'est très important. Et aussi, tout ce qui a été dit sur la formation, c'est vraiment, changeons de focal. J'interpelle un petit peu les chefs d'entreprise. C'est pas qu'un coût, c'est un investissement et c'est ça qui fait qu'on sera plus performant demain. Le diplôme, c'est évidemment important. Je veux pas rentrer dans un discours qui consisterait à dire il y a plus de place pour le diplôme. Ce qui est important, c'est qu'il faut pas être prisonnier du diplôme. Il faut pas comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire que pour ceux qui l'ont, ça fonctionne comme une franchise, parfois qu'on ait fait ses preuves ou pas d'ailleurs. Et de l'autre côté, il y a ceux qui n'ont pas le diplôme qui va bien et là, on les emprisonne. Ce qui est important, c'est de rentrer dans une logique de formation permanente, de formation continue. On parlait de nouveaux métiers, mais aussi de nouvelles compétences. Nous, on a une étude qui nous dit que 40% des compétences pour un métier sont obsolètes au bout de 3 ans. Ça peut faire peur, mais ça veut dire aussi quoi? Ça veut dire qu'on doit se former tout au long de la vie, puisque les matériaux changent, les technologies changent, les façons de fabriquer changent. Il faut qu'on forme tout au long de la vie. Ça, c'est important d'avoir cette logique d'apprentissage permanent.
Et ne pas être prisonnier de son diplôme, mais aussi de son métier, parce que je crois qu'il y a aussi pas mal de reconversions en ce moment, et vous récupérez des personnes peut-être qui viennent de la restauration, de l'événementiel, et vous allez les former?
Oui, absolument. Ça fait partie. Et là c'était ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que parfois, ces quelques offres. Quand nous, on annonce 15 000 CDI apprenants ou qu'on va embaucher 5 200 jeunes, c'est tout de suite des chiffres importants. Mais la réalité, c'est qu'on va dans la dentelle de la géographie. À Marseille, par exemple, il y a un boulanger que l'on forme à la conduite de transport de véhicules longs. En Vendée, c'est une sérigraphiste qui va devenir soudeuse. À chaque fois, c'est une agence avec son responsable de recrutement, c'est comme ça qu'on les appelle, qui s'adresse à une candidate ou un candidat et qui l'emmène dans un trajet de formation qui lui permet de passer d'une rive à l'autre, comme je
le
disais tout à
l'heure. Mais est-ce que c'est le moment aussi où il faudrait que les formations soient plus adaptées ? Puisque typiquement, des groupes comme vous à Adecco, ça fait longtemps que vous disiez, bah, nous on avait vu que tel et tel métier allait se créer, mais les formations ne sont pas développées. Je vais prendre un exemple, hein, dans les centres notamment d'Amazon, on cherche des gens pour conduire, ça peut paraître idiot, mais on cherche des gens pour conduire des véhicules autonomes. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de formation aujourd'hui en France. Est-ce qu'il faut accélérer ça et améliorer cela aussi ?
C'est important qu'on puisse accélérer, qu'on soit dynamique, qu'on soit dans la co-construction de formation avec les entreprises qui ont des besoins. Il y a la formation, il y a quelque chose de spécifique à la France qui n'a pas toujours pris, qui est la validation des acquis de l'expérience. Donc ça, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites là-dessus. Je pense qu'il faut, là aussi, ne pas céder au conservatisme en matière de formation et évidemment construire avec certaines entreprises, Amazon mais pas que, qui ont des besoins sur des nouveaux métiers qui sont identifiés, qui puissent travailler en partenariat. Je crois que c'est aussi quelque chose qu'il faut faire pour raisonner en termes de partenariat.
Estelle Barachlianov, directrice générale adjointe de Veolia en charge des opérations. Vous aussi, hein, vous êtes sur cette ligne, on n'est pas prisonnier de son diplôme, on s'ouvre et on se forme.
Complètement, tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Alexandre, de point de vue. Je vous l'ai dit, Veolia, c'est 1000 offres d'emploi aujourd'hui disponibles, mais c'est bien plus que ça. C'est à la fois des contrats d'alternance et de l'apprentissage dans lequel on fait des formations diplômantes. Ça veut dire qu'à l'issue d'un contrat d'apprentissage chez Veolia, on vous offre un CDI chez Veolia, mais par ailleurs, vous avez le CAP, la licence pro, ou peu importe derrière, ce qui vous permet aussi de continuer à évoluer dans votre formation. Et puis, pour tous ceux qui sont déjà dans notre entreprise, on investit sur la formation tout au long de la vie beaucoup. C'est un des objectifs principaux qu'on a affiché dans notre projet d'entreprise à horizon 2023, le nombre d'heures de formation pour chacun de nos salariés.
Eh bien, un grand merci Estelle Brachlianov d'être passée vous aussi aujourd'hui par les studios de La France Bouge. Je rappelle que vous êtes la numéro 2 de Veolia.
Alexandre Viros, président du groupe Adecco en France. Vous restez avec nous jusqu'à 14h parce que dans un instant, vous allez challenger un très joli projet fait par un jeune pour les jeunes.
Europe 1, La France Bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
Émission spéciale, on soutient l'emploi des jeunes aujourd'hui sur Europe 1 avec notre grand témoin du jour, Alexandre Viros, le patron du groupe Adecco en France. Et c'est parti maintenant pour les trophées Europe 1, La France Bouge. Chaque jour, justement, elle ou il tente de vous convaincre. Et on va continuer encore aujourd'hui.
Et oui, aujourd'hui, pour cette émission spéciale jeune, c'est un peu particulier puisqu'il s'agit d'un projet d'entraide né du premier confinement. Bonjour, Jules Signon-Brocherie.
Bonjour.
Vous avez 18 ans, vous êtes le fondateur de Élèves Solidaires. C'est une plateforme d'entraide à destination des jeunes. Vous êtes parisien, mais maintenant, là, depuis la rentrée, vous faites vos études de commerce près de Madrid. C'est quoi Élèves Solidaires ? C'est parti, vous allez faire votre pitch. Vous avez une minute.
Exactement. Donc, au cours du premier confinement, les médias et le gouvernement pointaient du doigt le fait que 10% des élèves étaient en décrochage scolaire. Donc, face à ça, m'est venue l'idée de créer la première plateforme d'entraide scolaire et solidaire à destination de tous les élèves et étudiants pour remédier à ce besoin. Donc, c'est une plateforme qui est articulée autour de trois principales rubriques. Donc, la rubrique documents, qui regroupe des devoirs et des fiches postées par les élèves eux-mêmes. La rubrique forum, donc c'est un forum de discussion classique dans lequel les élèves peuvent discuter sur tous les sujets possibles. Ça concerne en particulier l'orientation et l'aide aux devoirs. Et ensuite, une rubrique chat, donc une messagerie instantanée qui permet aux élèves de parler en privé entre eux. Tout ça fait par les élèves pour les élèves, parce que les élèves sont à la fois aidants et aidés. Et le processus d'entraide fonctionne très bien, parce que 15 000 élèves ont déjà rejoint l'aventure, et la croissance est exponentielle. Donc on est très heureux.
Eh bien bravo déjà pour ce pitch. Déjà c'est très très réussi. Je crois que vous avez besoin d'argent justement pour vous développer, pour aller maintenant un petit peu plus loin dans l'aventure de cette plateforme.
Oui, bravo pour ce pitch, bravo pour votre belle initiative. Alors Jules, je vous présente Nathalie Carré, qui est en charge de l'entrepreneuriat à la CCI. Elle a étudier votre plateforme, elle a deux, trois choses à vous dire. Bonjour Nathalie.
Bonjour Elisabeth, bonjour Jules, bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Alors
bonjour.
Les forces et les faiblesses et les petits conseils pour Élèves Solidaires.
Alors les points positifs, votre slogan « Chacun peut aider, être aidé, réussir » montre déjà que votre plateforme, elle ne concerne pas que les décrocheurs, mais en fait l'ensemble des collégiens et lycéens qui ont besoin d'un petit coup de pouce ponctuel éventuellement pour traverser une difficulté. Évidemment, deuxième point fort, c'est la gratuité. Même s'il existe d'autres plateformes qui proposent des cours en ligne gratuits, le fait que les contributeurs soient les pairs PAIRS, ça donne des explications qui sont dans un langage plus proche de celui des demandeurs. En point amélioré, bah, les contributions, justement. Il faut rassurer sur le fait qu'il y a une vérification des contributions. Vous le mentionnez rapidement dans une vidéo, mais ça doit être martelé parce que c'est essentiel, notamment pour les parents, mais aussi pour les élèves. Et puis, mais je sais que c'est vos prochaines étapes, l'organisation du site, le classement des ressources. Voilà, c'est pas si simple que ça pour s'y retrouver, alors que c'est très, très riche. Donc, j'espère que vous allez trouver les financements dont vous avez besoin pour que la plateforme prenne tout son essor, parce qu'effectivement, ça répond à un vrai besoin.
Alors, Jules, c'est très intéressant ce que nous dit Nathalie Carré. Vous avez besoin de combien en financement ?
Alors aujourd'hui, grâce justement au processus solidaire et à l'entraide qu'on prône et bah, qu'on opère sur notre plateforme, on a pas mal de fondations qui nous amènent des dons. Donc ça, c'est déjà notre première force et notre première aide. Donc d'ailleurs, on va les remercier. Il y en a 3-4 qui nous aident aujourd'hui. Après, pour vraiment se développer au niveau national et arriver à atteindre tous les élèves et avoir à la fois un support qui ne soit pas différent d'un support dans le digital aujourd'hui, donc qui ne crée pas de disparité pour les élèves. On a besoin, bien sûr, de fonds pour engager une société de développement web.
Combien, est-ce que ce qui est important,
oui, dites-nous combien vous avez.
Voilà, bon, aujourd'hui, c'est le moment. Pour le développement national, ce serait entre 100 et 150 000 euros.
Bon, en plus, ce qui est impressionnant, vous n'avez peut-être pas aimé comme je vais vous présenter, mais vous êtes vraiment Jola Desbrouilles parce que vous avez créé vous-même votre site internet alors que vous n'y connaissiez strictement rien. Et en une nuit, vous avez décidé comme ça de tout développer. Je crois que vous avez appris en regardant des tutos sur internet.
Exactement, oui. Alors, bah, en fait, j'ai juste eu l'idée très rapidement. Et quand j'ai une idée, j'ai envie que ça soit opéré très vite.
Bah, c'est sûr, vous le faites bien.
C'est ça. Sauf que personne ne pouvait m'aider réellement. Déjà parce que les gens, à la base, n'y croyaient pas. Et on n'avait pas le temps d'aller convaincre les gens. Donc je me suis dit, écoute, qu'est-ce que tu sais faire aujourd'hui et qu'est-ce qui peut servir ? Comment faire de la com quand on n'a pas de moyens financiers ? Les réseaux sociaux. Je suis quand même dans l'époque où les gens savent s'en servir. Donc allez, je m'en suis servi. J'ai créé un petit logo sur la plateforme Wix. Très facile, j'ai tapé un nom, je me suis dit élève solidaire, ça colle bien, ça veut dire que les élèves sont à la fois élèves et solidaires. Et j'ai créé un site pareil sur Wix dans la nuit pour le développer le lendemain.
Alexandre Diros, président du groupe Adéco en France, ça vous inspire quoi, élève solidaire ? C'est génial, franchement.
Bah d'abord, bravo, parce que c'est le nom est formidable et puis la prise en main comme ça, c'est extraordinaire. Est-ce que ça concerne toutes les classes ? C'est peut-être ma seule question. Ça va jusqu'où ? Ça commence à vous et ça va jusqu'où ?
Ça commence en troisième et ça concerne donc les lycéens et les étudiants, parce que ça va jusqu'aux études supérieures.
Ça s'appelle Élèves Solidaires. Merci et bravo à vous, Jules Simian, Brocherie. Surtout, n'hésitez pas à nous donner de vos nouvelles parce que nous, on aime bien savoir comment évoluent nos pitchers dans La France Bouge.
Et on retrouve dès demain Nathalie Carré pour chaque jour ses bonnes idées. Si vous aussi, vous voulez être challengé, une adresse mail e1-lafrancebouge@europe1.fr et vous aurez comme ça peut-être la chance de faire partie de nos candidats ou de nos candidats en route pour les trophées Europe 1 La France Bouge.
Alexandre Diros, PDG du groupe Adéco, vous restez avec nous.
Europe 1, La France Bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Émission spéciale de soutien à l'emploi des jeunes aujourd'hui avec notre grand témoin Alexandre Viros, le patron du groupe Adéco en France. Si là vous nous écoutez, que vous avez vous aussi des offres d'emploi à pourvoir, et bien surtout vous nous les envoyez et on va vous donner une adresse. Elle est simple, hein, c'est la même pour tout ce que vous avez à nous dire pour La France Bouge, c'est e1-lafrancebouge@europe1.fr. Si je la donne dans le bon sens, on aura plus de chances d'avoir les offres d'emploi.
Allez, là, on part dans une grande université française, celle de Paris, Dauphine. Bonjour, Elmoub Mouhoud.
Bonjour.
Vous êtes le président de l'université Paris Dauphine. Que faites-vous dans votre université pour que les étudiants aillent bien en ce moment ?
Bah écoutez, d'abord, il faut détecter les détresses. Hein. C'est ça qu'il faut faire en premier lieu. Un préalable, c'est que mon désir ardent est vraiment très vif, c'est de faire revenir nos étudiants sur site, car l'enseignement à distance, malgré tous les moyens qu'on peut avoir, technologiques, numériques, malgré tous les efforts des enseignants pour s'adapter à la situation, y compris adapter des examens, etc., bien c'est pas ça, c'est pas notre mission. Notre mission, la mission des enseignants-chercheurs et des enseignants, c'est d'être auprès de leurs étudiants pour répondre à leurs demandes, et les étudiants ont besoin de cette proximité physique. Donc c'est une anomalie que nous sommes en train de vivre. Le premier confinement a eu des effets. Une enquête vient de sortir qui montre que le passage de 9 à 18% d'étudiants déclarant un état dépressif, c'est une réalité. Mmh. On a aussi 11 à 22% d'étudiants qui déclarent des idées suicidaires. Ça, c'est une enquête nationale, hein. C'est pas pour notre université nécessairement. Et puis, il y a des troubles anxieux. Il y a 27% à peu près des étudiants qui ont des troubles anxieux. Et ça, on peut pas rester sans rien
faire. Est-ce que ça va un tout petit peu mieux depuis que vous pouvez les faire un tout petit peu revenir, hein, puisque depuis le 4 janvier, par groupe de 10, peuvent revenir.
Tout à fait. Alors, on utilise toutes les brèches. Tout ce qui nous est autorisé par la loi pour les faire revenir, on les fait revenir. Donc, on a des petits groupes de 10 qui peuvent revenir pour des soutiens psychologiques. On aurait aimé que l'on puisse les faire revenir pour du soutien pédagogique, et pas... mais ça n'a pas été possible jusqu'à une date récente. On est dans l'incertitude en permanence hein, sur ces questions-là au niveau national. On n'est pas totalement autonome, et en particulier s'agissant des questions de sécurité sanitaire. On est obligé de suivre la loi et les circulaires du ministère. Et donc, si vous voulez, là, on utilise les brèches. On a aussi des enseignements dérogatoires, de travaux pratiques, des choses qui consistent à venir sur place. Et puis, nous organisons nos examens en présentiel. Nous dépensons beaucoup pour délester notre université, pour qu'ils puissent venir sur place. Et puis, par ailleurs, nous faisons tout pour traquer, en fait, suivre les étudiants qui sont en détresse. Et effectivement, ils sont nombreux. Alors, nous venons juste de mettre en place un protocole de suivi de ces étudiants.
D'ailleurs, je crois que vous avez mis en place un système de veilleurs aussi pour les suivre.
Absolument. Ce protocole, c'est, si vous voulez, il a pour objectif à la fois d'accompagner les étudiants qui présentent des signes de détresse psychologique, des troubles anxieux, des états dépressifs, des états suicidaires. Et puis là, on a découvert qu'il y avait des idées reçues. En fait, on ne peut pas se déclarer spécialiste de ces questions. Il y a des spécialistes, des psychiatres, des psychologues. Il faut se faire aider de spécialistes parce qu'on a des biais dans l'analyse. En fait, on peut penser que les étudiants socialement défavorisés sont les plus vulnérables.
C'est pas forcément
c'est vrai,
le cas.
Ils le sont, ils le sont, mais ça n'est pas forcément le cas. Il y a aussi des étudiants qui ne sont pas nécessairement socialement défavorisés, mais qui sont dans des situations de stress liées, par exemple, à des disciplines dans lesquelles il y a des matières où il y a beaucoup d'examens, beaucoup de sélections, beaucoup de compétitions, et tout ça aggrave leur stress. Ouais. Or, le deuxième confinement a eu des effets, si vous voulez, délétères sur les dépressions. Le premier confinement a eu un impact, puis un peu comme une réplique de tremblement de terre, vous avez eu le deuxième effet du deuxième confinement.
Bien sûr.
Et là, bon, il faut réparer plus loin que juste en regardant.
Oui, on voit que c'est pas du palliatif et qu'il faut avoir des mesures extrêmement importantes. Je rappelle que vous êtes le président de l'Université Paris-Dauphine, une de nos plus grosses universités en France, très en lien avec le monde économique. Est-ce que les entreprises vous suivent et continuent à proposer des jobs à vos étudiants ?
Alors bien sûr. Alors si vous voulez, bon, puisqu'on en a terminé avec, je voulais compléter sur l'aspect stress parce que en fait, on met en place des intermédiaires. Hein, je voulais juste compléter là-dessus parce que
mais on a bien compris que vous étiez très mobilisé pour les accompagner, les soutenir psychologiquement.
Le
message est passé et c'est vraiment une bonne chose. Concernant les entreprises, est-ce que elles jouent le jeu ?
Les entreprises, il se trouve que l'Université Paris-Dauphine est privilégiée dans ce cadre puisque nous sommes en osmose déjà. Avec les entreprises. Nous avons la chance d'avoir un taux d'insertion professionnelle de nos étudiants sortant de master qui est d'environ 96% de nos étudiants. Au bout d'un mois et demi, trouvent un emploi à un niveau de rémunération tout à fait correct, tout à fait attendu. Donc, on a une population qui s'insère très bien sur le marché du travail parce qu'aussi, nous avons développé beaucoup l'apprentissage.
Oui, vous aussi, vous êtes très branché sur l'apprentissage et les alternances aussi.
Et l'alternance, absolument. Et depuis la crise, évidemment, les entreprises, je trouve que je suis aussi économiste, donc je suis ça d'assez près. Les entreprises ont eu une stratégie, en quelque sorte, de procrastination dans leur recrutement. Elles ont d'abord utilisé les stages pour s'accaparer les compétences, et les étudiants dauphinois sont compétents et reconnus, nos diplômes sont très reconnus dans le marché du travail, sur le marché du travail, et grâce à ces stages, nos étudiants, finalement,
s'insèrent relativement bien sur le marché du travail.
Alexandre Biros, continuez comme ça à travailler avec les universités, c'est capital aussi.
Ah oui, c'est fondamental, il faut absolument, c'est un écosystème et il faut qu'on travaille tous ensemble et qu'on accompagne ces jeunes, c'est compliqué quand ils sont pas présents physiquement et donc nous on est là, c'est beaucoup de pression aussi sur les managers en fait quand ils embauchent des jeunes de pouvoir les accompagner quand on travaille à distance comme ça. Donc nous on est absolument à la manœuvre sur ce sujet-là, absolument.
Merci Elmoub Mouhoud, président de l'Université Paris-Dauphine qui soutient, qui accompagne ses étudiants. Merci à vous Alexandre Biros, président du groupe Adéco en France, vous soutenez et vous avez des emplois pour les jeunes et vous nous l'avez dit pendant tout au long de cette émission.
Et on parlera de quoi demain, Elisabeth ?
Alors demain, tout autre sujet, on va parler de la viande, nos boucheries en France.
On en mange meilleure qualité.
On en mange beaucoup mieux. Dans un instant, le flash suivi de Christophe Ondat. À demain.